Bonjour, Dr. Steben.
Oui, bonjour.
On dit qu'environ 280 Québécoises reçoivent chaque année un diagnostic du cancer du col de l'utérus, mais que le dépistage peut sauver ces vies-là. C'est des chiffres qui sont véridiques?
Oui, on parle même jusqu'à 350 par année. Donc, c'est un cancer qu'on connaît depuis longtemps. C'était un des premiers cancers qui a été relié à une infection, l'infection par le virus du papillome humain. Et on sait que la majorité des patientes qui ont un cancer invasif vont avoir eu des lésions qui auraient été détectables peut-être pour 20 ans auparavant. Et on aurait pu les traiter avant même que ce soit un cancer.
C'est quoi les causes du cancer du col de l'utérus? On parlait du virus du papillome humain. Est-ce que c'est le seul?
Le cancer du col de l'utérus, il faut avoir le virus du papillome humain pour avoir le cancer du col de l'utérus.
OK.
Alors qu'à d'autres sites, comme le cancer de l'anus ou le cancer de la vulve, du pénis, du vagin, c'est peut-être entre 40 et 90 %. C'est virtuellement 100 % des femmes qui ont un cancer du col de l'utérus qui ont un VPH.
Et en même temps, il y a quelque chose d'effrayant quand on sait que le VPH est une ITS qui est, disons, qui se répand assez rapidement. On parle que 70 % des gens pourraient être affectés.
Effectivement, on calcule que c'est un virus qui est parmi les plus transmissibles. On sait qu'il n'existe pas de dépistage. Quand on a un nouveau partenaire, on va passer des tests pour le VIH, on va passer des tests pour peut-être la gonorrhée, la chlamydia. Dans le cas du VPH, ça n'existe pas un test pré-début de relation avec un nouveau partenaire. Puis on sait que c'est peut-être la maladie qui est la moins bien protégée par les condoms.
Oui, parce que un simple frottement peut nous affecter.
Exactement. On entend souvent parler que le condom, c'est pas tellement bon, etc. Le condom, bien mis et bien utilisé, est quand même très efficace. C'est pas parfait. On réduit nos risques. Mais le problème qu'on voit, c'est que lorsqu'on questionne les patientes, les patients qui ont des maladies transmissibles sexuellement, puis on parle pas juste de VPH, on parle d'herpès, on parle de gonorrhée, de chlamydia, les gens vont avoir l'impression que le condom, il faut juste ça pour les orgasmes. Mais souvent, les gens vont dire, ouais, mais c'est sûr, on a joué un petit peu, j'ai frotté mon pénis sur sa vulve, il m'a frotté l'entrée de l'anus, il m'a frotté, il est rentré, donné deux, trois petits coups, puis après, il a mis le condom. Mais pour des maladies qui sont hautement contagieuses, comme l'herpès ou le VPH, c'est important d'avoir le condom du début de la relation jusqu'à la fin de la relation et non pas seulement pour la pénétration.
Le VPH peut toucher autant les hommes que les femmes, mais les répercussions semblent plus importantes chez les femmes.
Les femmes ont effectivement un petit peu plus de problèmes avec le VPH que les hommes. C'est clair que on a fait le premier lien entre le VPH et le cancer avec le cancer du col de l'utérus. C'est dans les pays en voie de développement un cancer qui peut être presque aussi important que le cancer du sein et causer plus d'années de vie perdues à la grandeur de la Terre que le cancer du sein lui-même. Puis si on offrait un dépistage, un vaccin contre le cancer du sein, il y a beaucoup de femmes qui n'hésiteraient pas, alors que pour le VPH, on a l'impression que non, pas moi, pourtant, il y a probablement autant de femmes qui ont des relations sexuelles que des femmes qui ont des seins.
Oui. On y reviendra au vaccin parce qu'évidemment, ça m'intéresse. Je reviens au cancer du col de l'utérus. J'imagine qu'il y a plusieurs répercussions sur la santé de la femme. Je pense notamment à la grossesse. Est-ce que ça peut entraver un désir de mettre au monde des enfants?
Oui, surtout, je pense qu'on vit actuellement une situation sociale assez intéressante. Donc, on voit les femmes attendre de plus en plus tard pour avoir des grossesses. Mais aussi, il y a de plus en plus de femmes, lorsqu'elles sont diagnostiquées avec des grossesses, qui ont déjà eu des anomalies au col de l'utérus avec des biopsies, différents traitements où on a enlevé la zone précancéreuse, où on a brûlé la zone précancéreuse. Et on sait que les différents traitements qu'on fait sur le col de l'utérus peuvent amener des complications à rester enceinte. C'est pas tellement pour tomber enceinte que de rester enceinte. Et on voit le nombre d'accouchements prématurés augmenter chez les femmes qui ont eu des traitements pour des lésions au niveau du col de l'utérus.
OK. Et le cancer du col de l'utérus est souvent un cancer malin, vous me corrigez si je me trompe, donc plus de risques de se répandre dans d'autres organes.
Comme il est interne, on ne le voit pas. Si on compare peut-être au cancer de la peau, alors qu'on voit qu'une lésion, on voit qu'une lésion qui est bizarre, qui a une couleur bizarre, qui a une forme bizarre, qui saigne, on va être alerté, on va vouloir voir un médecin rapidement. Le problème avec le cancer du col de l'utérus, c'est que c'est un cancer qui se développe habituellement de façon microscopique. Même quand le médecin regarde avec un spéculum dans le vagin pour voir le col, on n'aperçoit pas ces changements-là qui sont microscopiques. Et souvent, les premiers symptômes que les femmes ont un cancer du col de l'utérus, c'est que le cancer est rendu dans les poumons, est rendu dans les foies, est rendu dans les os ou dans le cerveau. Donc, c'est ça qui est un peu inquiétant parce que les cancers, habituellement, donnent des signes tardivement parce qu'ils envahissent les tissus ou parce qu'ils se disséminent un peu partout dans le corps.
Mais en même temps, le VPH amène certains indices qui pourraient nous amener à être plus alertes. Je pense, par exemple, à des verrues sur le col de l'utérus.
Oui, absolument, les verrues sont causées par des virus du papillome humain qui sont à faible risque de cancer. Donc, la forme la plus visible est aussi la forme la moins dangereuse de VPH jusqu'à un certain point. C'est sûr que d'avoir des verrues sur les organes génitaux, l'anus, dans le vagin ou sur le col utérus, c'est tout à fait détestable parce que là, le médecin doit détruire ces lésions-là par de l'électricité, un laser, l'azote, couper avec un ciseau ou un scalpel. Donc, c'est des traitements qui sont quand même très désagréables, mais leur potentiel pour faire mourir la personne est quand même très limité. Donc, c'est les virus du papillon humain qui sont les plus discrets, qui sont les plus dangereux et les plus associés avec le cancer.
OK. Maintenant, comment on peut détecter le cancer du col de l'utérus?
Il y a deux façons. Donc, il y a la bonne vieille façon traditionnelle, qu'est-ce qu'on appelle le test PAP. C'est un test qui a été développé par un médecin grec qui s'appelait Papanicolaou. Donc, on dit PAP, c'est beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le médecin ou l'infirmière va mettre un spéculum dans le vagin, va permettre à ce moment-là de bien dégager le col de l'utérus. Et on peut, avec soit une brosse ou un petit balai de caoutchouc spécial, aller chercher des cellules qui vont être mises soit dans une bouteille liquide, qu'est-ce qu'on appelle l'astrologium liquide, ou sur une vitre et être fixées. Et à partir de ces deux spécimens, on va colorer les cellules et on va regarder est-ce que ces cellules sont normales ou elles portent des signes d'avoir été infectées par le VPH et se diriger vers un cancer, vers un précancer. D'où l'utilité d'avoir ce test-là. Donc, ça, c'est celui qui est disponible actuellement dans les pays industrialisés.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a d'autres. On regarde, entre autres, en Ontario, eux ont la recommandation de faire des tests de VPH. Donc, les tests de VPH, comme le VPH est nécessaire pour avoir le cancer du col et que l'histologie va manquer une fois sur deux des lésions, mais comme le cancer est lent, on peut se reprendre avec un autre test qui va être fait. Comme c'est un cancer qui évolue sur 10 à 20 ans, on a le temps de finir par amasser la cellule. Donc, on peut aller chercher le virus lui-même, comme il est recommandé en Ontario, comme il est fait de plus en plus dans les pays en voie de développement. Et si on trouve le virus, à ce moment-là, on sait que cette personne-là est à plus haut risque d'avoir des cellules anormales ou un cancer. Et là, on peut faire des examens un petit peu plus complets, soit une biopsie, une colposcopie, où on va mettre du vinaigre sur le col et on va voir les cellules qui sont affectées par le VPH vont se teinter de façon beaucoup plus blanche que les cellules qui n'ont pas le VPH. Et on peut aller prendre des cellules par biopsie pour analyser plus en détail à ce moment-là.
Vous dites que c'est un cancer qui évolue sur 10 ou 20 ans. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Mais ça signifie qu'on est capable de détecter les précancers. Je donne souvent l'image du cancer du sein. Quand on envoie les femmes au Québec à partir de 50 ans faire des mammographies aux 2 ans, on cherche des cancers précoces. Donc, on n'a pas, pour le cancer du sein, la possibilité de détecter des lésions précancéreuses qu'on pourrait enlever ou qu'on pourrait monitorer et décider d'enlever parce qu'elles progressent. Dans le cas du cancer du col de l'utérus, on cherche des cellules précancéreuses. On les surveille et si ces cellules-là nous donnent l'impression qu'elles évoluent vers un cancer, on ne prendra pas de chance et on va faire une opération avant même que ce soit un cancer. Donc, c'est encore plus rentable, si je peux dire, de faire le dépistage du cancer du col que la mammographie.
Parce que...
C'est sûr que
Oui, pardonnez-moi, continuez.
C'est sûr que c'est un examen qui est désagréable. Je veux dire, c'est pas du tout dans les fantaisies des femmes de dire je vais aller me montrer la vulve à un médecin, une infirmière complètement inconnue, me faire rentrer un instrument dans le vagin, aller me faire gratter le fond du col utérus. Ce n'est pas agréable. Il n'y a pas de raison, par contre, que ce soit douloureux. C'est plus gênant, même à un certain point, qu'inconfortable, mais c'est un geste qui peut changer la vie d'une personne de façon drastique. Et on sait qu'au Québec, il y a un bon 15% des Québécoises qui n'ont jamais eu de pap test. Et quand on regarde le nombre de personnes dans les pays industrialisés, il y a un petit peu plus que 50% de tous les cas de cancer qui arrivent chez des femmes qui n'ont jamais eu de pap test ou qui vont de façon beaucoup trop irrégulière pour être protégées du cancer.
Justement, parlons de fréquence. Il faudrait y aller combien de fois? Une fois par année, ce qu'on entend souvent?
Non, actuellement, on a maintenant des lignes directrices. Donc, il y a des experts au Québec qui se sont réunis et ont émis les recommandations qui copient beaucoup qu'est-ce qui se voit aux États-Unis ou en Europe, où on a remarqué que les dépistages à tous les années, un, coûtaient énormément cher et ne sauvaient pas plus de vies. C'est un peu le principe des mammographies aux 2 ans. On sait que faire les mammographies ne sauve pas plus de vies que de faire les mammographies aux 2 ans. Donc, au Québec, nos recommandations, on fait les dépistages cancer du col de l'utérus aux 2 à 3 ans.
OK. Et on devrait commencer à quel âge?
On commence à 21 ans, à moins vraiment d'avoir une histoire particulière, une jeune fille qui a été agressée sexuellement dans son enfance, une dame qui prend des traitements pour diminuer son système immunitaire parce qu'elle a eu une greffe d'organes ou parce qu'elle est en traitement pour des maladies qui demandent d'affaiblir son système immunitaire. Donc, il y a beaucoup de médicaments qu'on donne pour aider à contrôler des maladies comme l'arthrite rhumatoïde ou pour la maladie de Crohn. On doit calmer le système immunitaire. Ces femmes-là sont plus à risque. On pourrait, dans ces cas spécifiques, commencer un petit peu plus tôt. Mais on sait que la majorité des lésions qui arrivent en bas de 21 ans sont des lésions qui guérissent spontanément et qui n'ont pas de risque virtuellement de causer la mort chez la femme en question. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pour 99,99% des femmes au Québec de commencer avant 21 ans.
Je reviens au pap test, docteur Stében. Bon, vous le disiez tout à l'heure, oui, inconfortable, mais nécessaire et à tout le moins extrêmement accessible, hein. Notre gynéco peut le faire, notre médecin de famille. Quoique, c'est pas tout le monde, je parle gynéco, c'est pas tout le monde qui a accès facilement, rapidement à un gynécologue au Québec.
On n'a pas besoin d'un gynécologue, ça c'est vrai. Même il y a certains groupes de médecine familiale, il y a certaines unités de médecine familiale, il y a certains CLSC, ce sont des infirmières. Il y a des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, il y a des médecins de famille, il y a effectivement des gynécologues. Le problème, comme on le sait, c'est l'accès aux médecins. Donc, c'est pour ça ici à la clinique, entre autres, on a développé le service avec nos infirmières. Donc, les gens peuvent prendre directement un rendez-vous sur l'Internet pour venir voir une de nos infirmières pour avoir leur test PAP. C'est quand même inapproprié qu'une femme qui connaît qu'il y a un acte qui pourrait lui sauver la vie n'ait pas accès avec le nombre de médecins et infirmières qu'on a là, au Québec.
Oui, d'ailleurs, je rappelle, vous êtes le directeur médical de la clinique A, cliniquea.ca. On se prépare comment un PAP test?
Un pap test, c'est sûr qu'on aime mieux que les femmes, au contraire de ce qu'elles pensent, viennent au naturel. Souvent, les femmes vont vouloir se laver, vont vouloir faire même une douche vaginale avant leur pap test. Non, un pap test se fait dans des conditions absolument normales. Le médecin va insérer le spéculum dans le vagin, va aller gratter le col de l'utérus. Et c'est pas vrai que les médecins arrachent un morceau ou font une biopsie. Ça, c'est la colposcopie qu'on fait seulement chez les femmes qui ont eu des cytologies anormales. Le plus important, c'est vraiment d'être le plus relax. Je sais que c'est facile à dire, c'est un petit peu moins facile à faire, mais plus on est relax, plus on est confortable avec le médecin ou l'infirmière ou la place qu'on va faire notre pap test, plus nos chances sont d'être relax plus importantes et ça permet d'être moins inconfortable lors du prélèvement.
Et préférable de ne pas être dans notre période de règles, de menstruation?
C'est ça. C'est peut-être le seul test aujourd'hui qu'on est limité par des menstruations. On va suggérer aux femmes, c'est sûr que si la femme a commencé de menstruer le matin, en général, on est capable de le faire pareil. Mais on demande aux femmes d'être peut-être un 48 heures après la fin des menstruations pour être dans un moment optimal pour faire le prélèvement.
Docteur Stében, en terminant, je veux revenir sur une petite précision. Il est possible de contracter le VPH, mais de pas nécessairement tout de suite avoir des signaux qui peuvent démontrer qu'on aurait le cancer du col de l'utérus, c'est bien ça?
Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que des fois, on a des patients qui nous disent « Regardez, ça fait 20 ans que je suis avec le même partenaire, vous continuez à vouloir me faire les pap tests. » Oui, le danger du cancer du col augmente plus longtemps une personne a eu le virus. Donc, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un depuis un certain temps qu'on n'a pas besoin de faire les pap tests.
Mm-hmm.
Puis même, il y a des femmes qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont plus actives sexuellement, qui doivent quand même avoir leur pap test si elles ont été sexuellement actives auparavant. Et puis, c'est bon à la fois pour les femmes qui ont des relations avec des hommes ou avec des femmes. On sait que les femmes, entre elles, peuvent se passer le virus du papillome humain. Donc, toute personne qui était active sexuellement devrait voir son médecin, son infirmière, son gynécologue aux 3 ans maximum à partir de l'âge de 21 ans jusqu'à 65 ans. Et à 65 ans, si les 2 derniers pap tests qui ont été faits dans les 10 dernières années étaient normales, on peut arrêter à 65 ans de faire les pap tests.
Docteur Marc Stében, directeur médical de la Clinique A, merci beaucoup, ça a été fort éclairant.
Merci, au plaisir.
Au plaisir.